France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Suite de notre série sur la notion de résolution, en clin d'œil aux bonnes résolutions de début d'année, quatrième épisode, la résolution comme geste existentiel, Kierkegaard et Heidegger. Il y a deux philosophes qui méritent d'être mis en dialogue à propos de la résolution. Le Danois Kierkegaard, mort en 1855 à l'âge de 42 ans, et l'Allemand Heidegger, singulièrement dans son œuvre de relative jeunesse. Il avait 38 ans à sa parution en 1927, Sein und Zeit, être et temps. Car le mot et l'idée de résolution ont une importance majeure pour eux deux, évoquant une certaine attitude dans l'existence qu'ils valorisent l'un et l'autre. De quoi s'agit-il ? S'agit-il d'un engagement de la volonté face à l'épreuve angoissante de la liberté radicale ? Peut-être, pour Kierkegaard, mais cela ouvre sur de multiples questions. S'agit-il de l'accès à une couche profonde, l'être, en deçà de la superficialité ordinaire de la vie réduite à ce qu'on y fait et à ce qu'on en dit ? C'est ce qu'il semble pour Heidegger, mais là encore, les interrogations suscitées sont nombreuses. Sachant que la pensée de Heidegger a évolué par la suite, on parle même d'un véritable tournant dans la deuxième moitié des années 1930, et que son adhésion au nazisme a été lue par certains comme un déploiement singulier du concept de résolution, obligeant aujourd'hui à parler de ce motif avec certaines alertes critiques. Nous allons débroussailler tout cela. Bonjour Vincent Delcroix.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes à distance, néanmoins avec nous, des problèmes parisiens, ou plus exactement banlieusards de transport. Vous avez toute notre compassion, j'ai presque envie de dire. Vous êtes philosophe et romancier. Comment ?
Oui, merci, je la mérite, votre compassion, là.
Vous êtes philosophe et romancier, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, spécialiste de Kierkegaard. Je renvoie à votre ouvrage paru aux éditions du Félin, Singulière philosophie, essai sur Kierkegaard, et à votre dernier roman, Naufrage, publié en 2023 chez Gallimard. Et bonjour Philippe Cabestan.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes avec nous, bien installé en studio, merci. Vous êtes professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Janson de Sailly à Paris. Très bon connaisseur de plusieurs philosophes du XXe siècle, dont Martin Heidegger. Je signale votre livre paru chez Vrin en 2021, « Tomber malade, devenir fou, essai de phénoménologie existentielle ». Et il paraît que vous présidez l'École française d'analyse existentielle ou de Dasein-Analyse. Eh bien, commençons par là. Philippe Cabestan, qu'est-ce que c'est la Dasein-Analyse ?
Merci pour cette question, parce que je suis vraiment très heureux de pouvoir parler à l'antenne de France Culture de cette association qui s'appelle donc plus exactement l'École française de Daseinsanalyse. Alors, traduisons tout de suite Daseinsanalyse par analyse existentielle, comme ça, ce sera peut-être un tout petit peu plus clair. Et cette association, cette école, a en fait une ambition, c'est d'instaurer un dialogue entre d'une part ce que j'appellerais les psys, c'est-à-dire les psychiatres, bien sûr, les psychologues, les psychothérapeutes, les psychothérapistes, etc. Ce que j'appellerais la phénoménologie existentielle. Et on en arrive au sujet du jour, c'est que dans le cadre de cette phénoménologie existentielle, il y a une œuvre qui est pour nous centrale, qui est fondamentale, c'est bien sûr « Être et temps », « Sein und Zeit », publié en 1927. Et effectivement, c'est une pour nous, pour notre association, une source d'inspiration, dans la mesure où on fait une lecture un peu particulière de cette œuvre, puisque ce qui nous intéresse, c'est de voir les prolongements anthropologiques, peut-être même psychopathologique, de cette élaboration qui, au départ, bien sûr, a une vocation beaucoup plus ontologique, puisque la grande question de Heidegger, c'est la question de l'être.
Et certains considèrent que, d'une certaine façon, il est sorti de la phénoménologie, qui ne prétendait accéder qu'aux choses mêmes, certes, mais telles qu'elles nous apparaissent, telles qu'elles sont en lien avec nous, phénoménologie, alors que l'ontologie, la science de l'être, c'est une aspiration de Heidegger à toucher une couche plus profonde en deçà de la manière dont les choses qui sont des étangs, dit-il, nous apparaissent dans la vie ordinaire?
Oui. Alors, il y a une grande thèse de Heidegger qui est, je dirais, vraiment le point de départ de son œuvre. C'est l'idée que ontologie et phénoménologie sont non seulement conciliables, mais que la condition même de l'ontologie, c'est la phénoménologie. De telle sorte que l'être n'est pas quelque chose qui serait caché, inapparaissant, etc. L'être, au contraire, pour Heidegger, est phénomène. Et que donc, il y a une phénoménologie possible de l'être. Alors, après, il faudrait nuancer, bien sûr, cette idée d'une phénoménologie de l'être. Mais je dirais que, même si, effectivement, on aura l'occasion de revenir dessus, Heidegger a évolué, il y a eu un tournant dans sa pensée, mais il y a chez lui une volonté, en tout cas, une résolution, presque, une volonté d'être fidèle à la phénoménologie, et dans des textes tardifs, Heidegger rappelle que il est phénoménologue. Et donc ici, il ne faut pas opposer ontologie et phénoménologie. Au contraire, pour Heidegger, la condition même de l'ontologie, c'est la phénoménologie, et c'est la tâche même de la phénoménologie. Et en ce sens-là, il s'éloigne de son maître Husserl, qui envisageait la phénoménologie beaucoup plus comme une interrogation sur la conscience, les vécus de conscience, l'intentionnalité, etc.
La Dasein-analyse, on ne peut pas s'empêcher d'entendre une référence latente à la psychanalyse. Est-ce que la Dasein-analyse a une vocation thérapeutique?
Alors, la Dasein-analyse, en tant que, elle désigne, je dirais, stricto sensu, l'analytique existentielle, donc le travail de Heidegger, bien évidemment, la Dasein-analyse n'a pas de vocation thérapeutique.
Ah, donc ça n'a rien à voir?
Alors, rien à voir, peut-être pas.
Avec les enjeux, disons, d'un mal-être existentiel, on pourrait dire les choses ainsi, et une manière de changer notre attitude dans l'existence qui, de surcroît, au-delà des enjeux philosophiques que vous venez de dire et que nous allons encore explorer, aurait, des vertus thérapeutiques. C'est peut-être un mot un peu énorme, mais ça nous ferait du bien.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Heidegger lui-même, dans les années 60, fin des années 50-60, s'est interrogé sur les prolongements possibles, d'un point de vue thérapeutique, de sa pensée. Et il a tenu un séminaire pendant plusieurs années, avec un psychiatre suisse qui s'appelle Médarbos. C'était l'occasion pour Médarbos, qui avait découvert étant au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il était suisse, il était dans l'armée suisse, il lit Heidegger, il écrit Heidegger. Heidegger lui répond, parce que ça l'intéresse d'être en relation avec ce psychiatre suisse, et ils vont tenir un séminaire, et on a les résultats de ce séminaire qui ont été publiés sous le titre « Séminaire de Zurich ». Traduit par Caroline Gros, que vous trouvez chez Gallimard. Et c'est tout à fait intéressant de voir comment ce psychiatre et ce philosophe, donc Heidegger, Médarbos et Heidegger, dialoguent. Et je dirais que l'école française de Dasein-analyse se situe dans le prolongement de ce dialogue et tente, à sa manière, de prolonger ce dialogue et de le mener avec des psychiatres du 21e siècle.
Vincent Delcroix, Kierkegaard écrit « Un siècle ». Avant Heidegger, il réfléchit à l'existence, à différents stades possibles, différentes attitudes possibles dans l'existence. Est-ce que vous diriez qu'il y a, au moins dans l'analyse, par les textes, par l'écrit qu'il propose, un enjeu thérapeutique?
Un enjeu thérapeutique, je ne sais pas. Enfin, thérapeutique, ça dépend si on l'entend au sens très très large. Mais ce qui est sûr, et ce qui nous place directement sur le sujet d'aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la résolution ou la décision, bon, on reviendra peut-être sur la différence entre les deux, mais c'est la catégorie fondamentale de l'existence. C'est d'ailleurs ça qui distingue l'existence du régime logique de la pensée. Et cette catégorie de la décision, elle est susceptible de permettre à la subjectivité existante de gagner sa réalité, de devenir vraiment réelle, consistante, ou pour utiliser un mot particulièrement ambivalent, authentique. Donc il y a une forme de thérapie, mais il y a une forme dans l'existence, par la décision de surmontement, de dépassement d'un certain nombre de problèmes liés à l'errance de la subjectivité elle-même.
Quel problème ? Oui, quel problème ? Et surtout, ces problèmes font-ils souffrir l'individu ?
Si on s'en tient à Kierkegaard, il y a un problème majeur dans l'existence, c'est le désespoir. Et le désespoir, il est lié à l'impossibilité d'être soi-même, comme à la possibilité de l'être de manière inauthentique. Et d'une certaine manière, ce qui résout et ce qui dépasse ce désespoir inhérent à l'existence, c'est la résolution ou la décision.
La résolution ou la décision, mais écoutez, je vais vous laisser tout de suite nous dire, en tout cas, chez Kierkegaard, quelle est la différence ?
La différence entre les deux, si vous voulez, enfin, on ne va pas faire du danois après avoir fait de l'allemand, mais en danois, enfin, ce serait intéressant d'ailleurs.
Je ne suis pas hostile à un peu danois, de langue étrangère là. Oui.
En danois, il y a deux manières d'exprimer cet acte de la volonté et qui est le lieu même de la liberté. Il y a la décision proprement dite qui implique une activité. Bon, voilà, c'est faire quelque chose, c'est avancer dans l'existence, c'est choisir plus précisément. Et puis il y a une autre dimension qui est tenue par un autre syntagme, beslutning, pardon pour le danois, qui là correspond vraiment au principe de résolution. Et ça c'est très important parce que beslutning c'est d'une certaine manière une façon de refermer sur soi, de conclure avant de passer à autre chose. Et l'activité de la décision, c'est cette manière de, pour l'existence, de se ramasser sur elle-même, de se reprendre intégralement pour passer à un stade supérieur, pour passer à un autre stade.
C'est un arrachement, diriez-vous ? C'est un arrachement.
C'est un arrachement et à la fois une reprise, c'est une autre catégorie fondamentale chez Kierkegaard, celle de reprise ou de répétition, c'est-à-dire une manière de reconcentrer l'essentiel de l'existence pour lui faire atteindre un stade supérieur. Or, ce passage, c'est une véritable solution de continuité, c'est-à-dire que c'est pas le mouvement immanent de l'existence, son développement, j'allais dire, ordinaire, qui permet ce passage à un autre état de la subjectivité, c'est au contraire un seul acte, c'est-à-dire celui de la décision et de la résolution.
Alors j'ai encore une question pour que ça devienne peut-être un peu plus concret aux personnes qui ne sont pas familières de l'œuvre de Kierkegaard. Vous parliez de stade, il y a notamment le passage du stade esthétique. Il me semble que le journal du séducteur qui achève ou bien ce texte de 1843 évoque les problèmes du stade esthétique, mais vous nous préciserez cela, vous êtes spécialiste. Le passage, l'arrachement pour aboutir à un stade éthique. Est-ce que vous pourriez, d'abord, est-ce que je me trompe ? Et si je ne me trompe pas ou pas tout à fait, pourriez-vous préciser ce point ?
Oui, très bien. Et parce qu'on est en plein dans le cœur du sujet. Le stade esthétique,
Je crains que la réponse à cette question doive un peu attendre, mais je promets aux éditeurs que je la reposerai un peu plus tard dans l'émission. Elle est assez importante, même si j'ai peut-être simplifié un peu la donne, mais il faut bien commencer par un endroit. Parlons donc de la résolution chez Heidegger, où la question de l'être est centrale. Il y a là aussi l'idée qu'on change d'attitude dans l'existence, mais c'est toujours l'être qui est l'enjeu. Alors dans « Sein und Zeit », ce livre de 1927, alors qu'il n'y a en fait qu'une première partie dans « Sein und Zeit », parce que l'œuvre entière est inachevée, il n'y a jamais eu la deuxième partie. Dedans, il y a deux sections. Dans la deuxième, deux chapitres. Et le deuxième s'intitule « L'attestation par le Dasein » de son pouvoir-être authentique et la résolution. Alors je voudrais, avant qu'on écoute un passage célèbre de l'alinéa 60, qui fait partie de ce chapitre 2 de la première section, je voudrais qu'on définisse d'abord ce qu'est le Dasein et qu'est-ce que c'est que son pouvoir être authentique, puisque c'est cela qui introduit l'enjeu de la résolution chez Heidegger. Je vous écoute, Philippe Cabestan.
Écoutez, pour le terme de Dasein, que un certain temps on a traduit en disant, voilà, on va traduire Dasein par être là. Et puis, il me semble que maintenant, on ne traduit pas, parce que dire être là, ça n'éclaire pas grand-chose, et ça n'apporte rien. Et moi, je vous propose de cette simplification. Qu'est-ce que c'est ? Qui est le Dasein ? Qui est le Dasein ? C'est la question même de Heidegger. Eh bien, c'est l'être humain. Alors, pourquoi Heidegger ne dit pas l'être humain ? Là, il faudrait faire tout un développement sur la volonté de Heidegger de rompre avec une certaine entente de l'être humain comme animal raisonnable. Et donc, on comprend bien qu'il veut introduire un nouveau terme pour éviter au moins toute cette tradition et pour remettre au cœur de l'interrogation philosophique la question de l'être, puisque Sein, en allemand, c'est l'être. Donc, Dasein, il faut dire l'être humain. Et deuxième point, cette question donc de la résolution, il faut effectivement la mettre en rapport avec les notions d'authenticité.
Donc le pouvoir être authentique.
Voilà, le pouvoir être authentique et le pouvoir être inauthentique. Là, à nouveau, on peut très bien présenter ça à partir d'un thème qui est propre à Heidegger. Ce thème, mais qui peut emprunter à d'autres sources, ce thème de la dictature du « on ». Et cette idée qui domine vraiment l'analytique existentielle, c'est que le Dasein, l'être humain, le plus souvent, n'est pas lui-même. Il n'est pas lui-même, pourquoi ? Parce que il est assujetti à cette dictature du « on », c'est-à-dire à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, à ce qu'on fait, de telle sorte que il n'est pas responsable de sa propre existence, il n'est pas maître de sa propre existence, parce que c'est en fait ce que j'appelle un sujet anonyme « on ». Qui est indéfini, c'est ce sujet anonyme qui gouverne l'existence. Et donc, la résolution vient ici prendre sa place parce que elle indique ce moment, et je reprends le terme que Christophe Delecroix a utilisé, ce terme d'arrachement. Il s'agit effectivement de s'arracher à une manière d'exister qui est dominée par le « on », par une puissance anonyme, de telle sorte que on se comporte, on vit, on meurt comme on doit mourir. Et il s'agit de s'arracher et donc d'être, de mener une existence qui en fait vise à être soi-même. Et c'est ça peut-être la plus simple définition de l'authenticité. Qu'est-ce que c'est que l'authenticité ? L'authenticité, c'est cette possibilité, parce que le Dasein est un être possible. L'authenticité, c'est cette possibilité antinomique de l'inauthenticité, cette possibilité avant tout d'être soi-même et non pas d'être soumis à la dictature du « on ».
Donc en allemand, l'authenticité, c'est
Eigentlichkeit.
Eigentlichkeit.
Si on veut faire un peu d'allemand après
le... Et la résolution, je vous écoute, on a dit qu'on faisait du danois et de l'allemand ce matin.
Bon, alors on va dire Entschlossenheit.
Très bien, alors la Entschlossenheit, nous allons écouter tout de suite cet extrait fameux de la linéa 60 où Heidegger explique ses enjeux.
La résolution est un mode privilégié de l'ouverture du Dasein. Ce qui est conquis avec la résolution, c'est la vérité la plus originaire parce qu'authentique du Dasein. En tant qu'être soi-même authentique, la résolution ne coupe pas le Dasein de son monde. Elle ne le réduit pas à un moi flottant en l'air. Comment du reste le pourrait-elle quand, en tant qu'ouverture authentique, elle n'est rien d'autre, mais authentiquement, que l'être au monde. Au contraire, la résolution transporte justement le soi-même dans ce qui lui est à chaque fois son être préoccupé auprès de la portée de la main, et elle le rejette dans la sollicitude de son être avec autrui. C'est de l'être soi-même authentique de la résolution que jaillit pour la première fois l'être l'un avec l'autre authentique, et non pas des ententes équivoques et jalouses ou des fraternisations verbeuses dans le « on » et dans ce que l'on veut entreprendre.
Alors on pourrait évidemment préciser que la résolution, c'est quand même d'abord l'enjeu de l'être, et tout le livre le dit. Mais là, c'est vrai, conformément d'ailleurs à tout ce que vous avez dit, il y a ces phrases sur le fait que c'est d'abord soi-même dans l'authenticité qu'on va trouver, et ce faisant, autrui, ce qui suppose que dans le règne ou la dictature du « on », des étangs, comme dit les étangs au lieu de l'être, comme dit Heidegger, on n'a pas de rapport authentique à autrui, on n'a que cette fraternisation verbeuse, ces équivoques jalouses, etc. Moi, quand j'entends juste ça, sans l'histoire de l'être, je vous cache pas, je me demande ce que Heidegger apporte par rapport à Rousseau, par exemple, qui n'a cessé de dire, ou tout le romantisme dans son genre, hein, avec ses lignes diverses, qui cherchent le moi, par-delà la vie sociale, pleine d'illusions, d'équivoques et de souffrances.
Votre référence à Rousseau me semble tout à fait exact. Et j'en veux pour preuve un livre qui a été publié il n'y a pas si longtemps par Claude Romano sur l'identité humaine, où il s'interroge justement sur ce concept d'authenticité et sur ses racines, jusque chez Rousseau. Avec, alors évidemment Rousseau n'utilise pas le terme d'Eigentlichkeit et d'authenticité, mais chez Rousseau il y a cette volonté de naturel, de sincérité et surtout de naturel, être soi-même, être ce qu'on est et non pas être ce que les autres voudraient qu'on soit ou se conformer à ce que on devrait être. Et donc, effectivement, ça me semble une tout à fait juste idée que d'introduire cette réflexion sur l'authenticité dans une tradition qui remonte, en tout cas, jusqu'à Rousseau. Mais il y aurait d'autres jalons entre, bien sûr, Rousseau et Heidegger, notamment, puisque c'est le sujet de l'émission, Kierkegaard.
Mais qu'est-ce qu'il apporte, alors, Heidegger, de plus? Parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire nouveau, mais est-ce que ça change profondément les enjeux?
Il me semble que ce qui change beaucoup avec Heidegger, c'est de mettre au cœur de sa réflexion la question de l'être. Et donc, l'authenticité, c'est aussi la condition pour poser la question de l'être. Et tant que on est dans un mode d'existence qu'il caractérise d'inauthentique, cette question, je dirais, elle est cachée, elle n'apparaît pas. Et donc, l'authenticité et la résolution, je dirais, ce sont les conditions, j'aurais presque envie de dire les conditions transcendantales d'une ontologie. C'est-à-dire que l'ontologie, la question de l'être, ne se pose pas dans la vie courante, la vie quotidienne, dans la vie accaparée par des préoccupations qui sont celles de tout un chacun. Et donc, l'authenticité, ici, prend une dimension fondamentale pour le philosophe. Puisque, je dirais même le phénoménologue, si on veut être précis, le phénoménologue, justement, doit accomplir ce geste qui consiste à s'arracher à la dictature du rond, s'arracher à ses préoccupations, ne pas être ce, et je reprends l'expression du texte qui est belle, un moi flottant en l'air. Je crois qu'ici, on peut le comprendre, cette idée que on flotte, on va de projet en projet, on vacille, on n'a pas vraiment de fil conducteur. Il s'agit justement d'échapper à cette dispersion qui caractérise le mode d'existence inauthentique pour prendre la résolution. Et s'y tenir, bien sûr, la résolution de poser la question de l'être en assumant sa finitude, en assumant son être pour la mort, notamment.
Prendre la résolution et s'y tenir, vous employez des mots très actifs. Y a-t-il en effet quelque chose un peu comme la décision de... J'ai envie de dire, et je fais exprès d'employer ce mot, une mobilisation de soi active. Je fais exprès parce que, on y reviendra après, beaucoup ont pu dire qu'il y avait une trace, là, chez Heidegger, d'un auteur qui a marqué énormément la pensée allemande des années 20, Ernst Jünger, qui écrit « Die totale Mobilmachung », la mobilisation totale, en 1930, et ces thèmes de... La décision, c'est aussi un enjeu chez Carl Schmitt. Le décisionnisme, est-ce que vous êtes d'accord? On mettra peut-être des bémols pour Heidegger, mais sur le fond, qu'il y a quelque chose d'actif, de maîtrisé, relevant de la volonté dans la résolution.
Moi, je vous proposerais le terme de volontarisme. Il y a effectivement une forme de volontarisme. Et ce volontarisme, d'ailleurs, est problématique et soulève une question qui est une question à laquelle je n'ai pas vraiment moi-même la réponse. C'est la question des motivations de la résolution. C'est la question de la motivation du passage de l'inauthenticité d'un mode d'existence à un autre. Il y a un point qui est relativement obscur dans le texte même, dans l'œuvre même de Heidegger, puisqu'on peut s'interroger, mais au fond, si je suis aliéné, si je suis dominé, si je suis assujetti à la dictature du on, comment se fait-il que j'échappe? Et cette question, en fait, elle est très 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 ancienne. En fait, elle est déjà dans l'allégorie de la caverne. si vous y réfléchissez.
Alors sur cet aspect assez actif, volontariste, disiez-vous, je vous propose d'écouter l'extrait suivant d'un film qui s'intitule « De son vivant » réalisé par Emmanuel Berco, sorti en 2021 où le docteur Aidé, joué par Gabriel Sarra, parle des patients atteints de cancers incurables, dont l'un des personnages importants du film.
C'est ce que j'appelle en anglais le « hero syndrome ». D'après vous, qui est le héros ?
Le médecin.
Le médecin.
Hein ?
Quelqu'un a d'autres idées ?
Oui, nous.
Vous ? Les infirmières, tu veux dire ? Bonne idée.
L'époux ou l'épouse ?
L'époux ou l'épouse, oui. C'est de bonnes idées. Mais en fait, c'est le pauvre malade qui est le héros. Il n'a jamais demandé à être le héros. Mais nous lui avons expliqué qu'il est le héros par notre attitude. Allez, vas-y, bats-toi, on va gagner la bataille. Et ça lui crée une impasse insupportable à vivre. Parce qu'il se dit que s'il baisse les bras, s'il meurt, il trahit ses supporters. Alors qu'il a besoin exactement du contraire pour se libérer. Il a besoin de la permission de mourir. Et cette permission, deux personnes la lui donnent. Son médecin et sa famille. Et il a besoin de l'entendre. On peut expliquer tout ça à la famille et leur dire, écoutez, le plus grand cadeau que vous pouvez lui offrir aujourd'hui, c'est de lui donner cette permission de mourir. En lui disant, tu es déjà notre héros. Plus besoin de preuves. Tu peux partir.
La volonté forte, héroïque, la mobilisation de soi, ce n'est pas toujours bon. Ni pour aller bien, ni peut-être pour ressentir tout ce qu'est l'existence, parfois dans sa difficulté, dans sa souffrance. Philippe Cabestan.
Je suis sensible à ce thème parce que j'aime beaucoup dire, alors ça c'est un peu personnel, mais arrêtez de vous battre, ne vous battez pas. Alors évidemment, je suis entouré de gens qui ont des combats et qui se battent. Et je passe un peu pour, quelqu'un de lâche ou peut-être de défaitiste. Mais je trouve que cet extrait, justement, met bien en valeur cette attitude qui n'est pas héroïque, qui dénonce l'héroïsme et qui consiste à dire mais acceptez ce qui vous arrive. Et dans le cas de la mort, nous sommes bien obligés de l'accepter. Alors, on peut se révolter, on peut la refuser, on peut adopter une conduite héroïque, comme le dit le médecin, mais c'est évidemment une impasse. Alors là, évidemment, on s'éloigne de Heidegger,
Vous ne pensez pas que la question de la résolution, dans son côté très actif et volontariste, c'est précisément ce que Heidegger va abandonner au moment du tournant de la Kehre, où il va considérer que l'être advient sur un mode bien plus... Oui. L'enjeu est plus la disponibilité à l'être que la résolution.
Tout à fait.
Et il parlera d'un mot alors intraduisible, vous allez me dire en français, le mot Gelassenheit, lâcher, quoi. Oui, c'est ça, il faut lâcher.
Laisser être. Alors, effectivement, moi je suis, c'est pour ça que j'évoquais cette attitude, parce que je suis très sensible à ce thème de la Gelassenheit. Mais quand je parlais de posture héroïque, c'est que on va retrouver, dans les années 30, chez Heidegger, cette posture héroïque, et on va le revoir avec Karl Löwit, bien sûr.
Oui, tout à l'heure. Alors, avant de faire la Kehre, le tournant, et de lâcher un peu la résolution, il va l'exploiter sur un mode plus que troublant. Parlons maintenant de Kierkegaard. Vincent Delcroix, vous êtes de retour avec nous. Le côté très actif de la résolution, volontariste, c'est pas la décision, mais ça y ressemble, c'est peut-être même plus volontaire encore et grave que la décision. Vous nous l'avez expliqué. Chez Kierkegaard, est-ce que ce côté actif, où on prend sa vie en main, est assumé? Et puis je repose ma question, est-ce ce qu'il faut, notamment une forme d'arrachement actif, pour passer du stade esthétique au stade éthique? Merci d'expliquer tout cela.
Oui, ce qui est intéressant, c'est quand on écoute le texte de Heidegger, c'est sa proximité avec Kierkegaard et qu'il revendique plus ou moins l'influence de Kierkegaard sur Être et Temps. Elle est palpable et en particulier dans cette description de la résolution, c'est-à-dire le fait que le passage, l'opérateur qui permet de passer d'un moi ou d'une subjectivité inauthentique, insignifiante, irrésolue, littéralement irrésolue, c'est ça le stade esthétique, le stade poétique, c'est-à-dire c'est un moi inconsistant, flottant, comme le dit Heidegger d'ailleurs, dans lequel on jongle avec les possibles sans jamais s'engager réellement dans l'existence. C'est l'existence poétique par excellence. Et donc le passage entre cette inconsistance du moi, cette inconsistance de l'existence, à la reprise de soi dans l'engagement, dans une décision qui relève uniquement d'un exercice, si on peut dire, pur de la volonté. Et avec tout ce que ça a d'inquiétant, incontestablement, j'espère qu'on reviendra bien sûr sur ce caractère vraiment volontariste et j'allais même dire parfois viril de la décision qui n'implique qu'une volonté dans un cheminement de l'existence qui est pour... Kierkegaard ne s'intéresse pas à la question de l'être, ça c'est clair, c'est pas sa question. Sa question, c'est le devenir soi, c'est comment on devient ce qu'on est.
Donc ce
qu'on
côté
doit être.
Actif bon. Et dites-vous quasi viril avec tous les problèmes que ça peut poser, et nous allons y venir, ouais. Il est là, il est bien là chez Kierkegaard.
Oui, et il est très pénible, à dire vrai. Moi, je suis de plus en plus hostile à cette espèce de manifestation, héroïque. Alors bon, la question se pose à l'égard d'Abraham comme manifestation justement de la résolution ultime. Mais il y a une posture héroïque qui est bon. Comme on sait, qui a pu être mobilisé, c'est le cas de le dire, par un certain nombre de je parle pas seulement de Heidegger, mais par un certain nombre de penseurs qui l'ont traduit sur des plans qui étaient d'ailleurs complètement étrangers à la philosophie de l'existence de Kierkegaard, notamment sur un plan politique. C'est Carl Schmitt, dans sa théologie politique de 22, qui fait référence à Kierkegaard, directement, un théologien danois, dit-il, et qui prend chez Kierkegaard la catégorie de la décision pour l'appliquer à une définition de la souveraineté dont on sait ce qu'elle aura produit dans les années 30.
Alors, je suis contente que... Vous savez, c'est pas si courant que des spécialistes d'auteurs finissent par oser critiquer leur auteur, si j'ose dire. Souvent, ils le défendent, mordicus. Et ça fait de bonnes émissions de radio aussi, parce qu'on discute. Mais là, je suis sensible, Vincent Delcroix, à votre trouble face à un auteur que vous avez beaucoup aimé, évidemment, et que vous connaissez parfaitement. Je vous propose d'écouter ce texte sur, justement, le vouloir de Abraham qui est obligé par Dieu à aller sacrifier Isaac. Il doit le vouloir, il va au bout de cette volonté, décidé, résolu. Pour ma part, je préfère être honnête avec les auditeurs, c'est pire que vous, je pense, Vincent Delcroix. Je ne supporte pas cette scène biblique. Je vous le dis franchement, je crois qu'il faut vraiment choisir son fils contre Dieu. Donc je préfère le dire, je suis très 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 mal à l'aise avec cette scène. Mais je voudrais que vous, avec vos mots, vous commentiez ce qu'en dit Kierkegaard, qui la justifie quand même. Je vous propose d'écouter « Crainte et tremblement » 1843.
Que fit Abraham ? Il ne vint ni trop tôt, ni trop tard. Il sella son âne et suivit lentement la route. Tout ce temps, il eut la foi. Il crut que Dieu ne voulait pas exiger de lui Isaac, alors pourtant qu'il était disposé à le sacrifier s'il le fallait. Il crut en vertu de l'absurde, car il ne saurait être question de calcul humain. Et l'absurde, c'est que Dieu, qui lui demandait ce sacrifice, devait révoquer son exigence un moment après. Il gravit la montagne, et à l'instant encore où le couteau étincelait, il crut que Dieu n'exigerait pas Isaac. Il fut alors assurément surpris par l'issue. Mais par un double mouvement, il avait rejoint son premier état. Et c'est pourquoi il reçut Isaac avec plus de joie que la première fois. On croit en général que le fruit de la foi, loin d'être un chef-d'œuvre, est un travail lourd et grossier réservé aux natures les plus incultes. Mais il s'en faut de beaucoup. La dialectique de la foi est la plus subtile et la plus remarquable de toutes. Elle a une sublimité dont je peux bien me faire une idée, mais tout juste. Je peux bien exécuter le saut de tremplin dans l'infini. Mon échine, comme celle d'un danseur de cordes, s'est tordue dans mon enfance. Aussi le saut m'est-il facile. 1, 2, 3, je me lance la tête la première dans la vie, mais le saut suivant, j'en suis incapable. Je ne puis faire le prodigieux, mais seulement rester devant, bouche bée. Certes, si à l'instant où il enjamba le dos de l'âne, Abraham s'était dit « perdu pour perdu, autant sacrifier Isaac ici à la maison que d'entreprendre ce long voyage de Morija », alors je n'aurais que faire de lui. Tandis que maintenant, je m'incline 7 fois devant son nom et 77 fois devant son action. Car il ne s'est pas livré à ses réflexions. J'en ai la preuve dans la joie profonde qu'il éprouve en recouvrant Isaac et en voyant qu'il n'eut pas besoin de se préparer, pas besoin d'un délai pour se recueillir devant le monde fini et ses joies. S'il en était autrement de lui, il aurait peut-être aimé Dieu, mais il n'aurait pas cru. Car aimer Dieu sans avoir la foi, c'est se réfléchir en soi-même. Mais aimer Dieu avec la foi, c'est se réfléchir en Dieu. Telle est la cime où est Abraham. Le dernier stade qu'il perd de vue est celui de la résignation infinie. Il va réellement plus loin et arrive à la foi.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Je suis en compagnie de Philippe Cabestan et de Vincent Delcroix. Nous parlons de la résolution chez Heidegger et chez Kierkegaard. Et nous venons de lire ce texte sur le sacrifice de son fils Isaac par Abraham, somme toute justifié par Kierkegaard. Enfin, j'ai dit que j'étais mal à l'aise, je vous cède la parole. Vincent Delcroix, comment vous lisez ce texte de Kierkegaard? Y a-t-il quand même une justification? Il a atteint la vraie foi, quoi, en Dieu, en acceptant de faire ça pour lui.
Oui, alors il y a deux précisions à apporter pour affiner la lecture. La première, c'est que Kierkegaard tord le récit biblique, hein, que dans la Bible on appelle plutôt la ligature d'Isaac, c'est-à-dire ce que, comme vous l'aurez remarqué. Ce qui lui importe assez peu, finalement, c'est la, si je puis dire, la résolution du sacrifice d'Abraham ou d'Isaac par Abraham, c'est le fait qu'elle soit interrompue. Ce sur quoi insiste l'auteur, c'est au contraire la volonté de sacrifier. Bon. Et ce qui rend le texte encore plus choquant, hein, et ce qui a notamment irrité beaucoup Lévinas, c'est-à-dire que, ce qui intéresse davantage Kierkegaard, c'est le sacrifice lui-même plutôt que l'interruption du sacrifice. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'auteur qui écrit ces lignes n'est pas Kierkegaard, c'est un pseudonyme, il s'appelle Johannes de Silencio, et qui lui-même n'est pas un auteur religieux, ou qui ne se veut pas un auteur religieux, hein, et qui tourne autour du mystère de la résolution d'Abraham, hein, c'est du silence d'Abraham dans lequel se fait cette résolution, ce qui l'oblige à reprendre indéfiniment ce passage. Mais ce qui est sûr, c'est que la figure d'Abraham, c'est-à-dire en fait le sacrifice proprement dit, c'est la figure de la foi, ou c'est la première figure de la foi, et en même temps la première et le paradigme, la figure paradigmatique de la résolution. Et il y a une chose qui évidemment est très importante dans ce texte, c'est la rupture par rapport aux raisons et à la raison. Bon, cette fameuse croyance en vertu de l'absurde, hein, qui est la croyance d'Abraham, et cette croyance en vertu de l'absurde, elle signifie tout simplement un seuil devant lequel se trouve Abraham, c'est-à-dire plus aucune raison n'est susceptible de justifier ou de l'incliner à tel choix plutôt qu'à, plutôt qu'à tel autre. De ce point de vue-là, Abraham est absolument seul. Personne ne peut l'aider à prendre cette décision, et pas plus des raisons ou des motifs qui le porteraient à ceci plutôt qu'à cela. Mais il fait le saut. C'est-à-dire, il fait le saut de la décision.
Et j'ai bien compris. Je veux juste qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Vous dites que ce n'est pas Kierkegaard qui a écrit Céline. Si, c'est lui, mais il met ce propos dans la bouche d'un autre personnage. Est-ce qu'il se distingue de ce personnage? Est-ce qu'il lui répond?
Oui, absolument.
Mais est-ce qu'il colle à ce qu'il, est-ce qu'il est d'accord avec lui?
Ben oui, d'une certaine manière oui, mais l'auteur de Crainte et tremblement, c'est un certain point de vue sur la foi. Bon, et d'ailleurs, un point de vue à distance qui maintient le caractère totalement incompréhensible, et ça c'est tout au long du livre, le caractère totalement incompréhensible de cette résolution d'Abraham. Il cherche pas à la justifier, il cherche simplement à comprendre ce qui se passe. Il cherche à comprendre ce qui se passe. Et d'ailleurs, il n'y parvient pas, puisque la foi, comme engagement, comme choix, comme saut, vis-à-vis d'une raison impossible, elle reste pour lui un pur mystère. Mais d'une certaine manière, je vais encore moins vous rassurer, c'est que le Kierkegaard religieux vise à, d'une certaine manière, encore plus radicaliser le geste sacrificiel d'Abraham. Et c'est évidemment ça qui pose un gros problème. Mais pour ce qui est de la résolution elle-même, c'est-à-dire du concept de choix et de décision, elle offre cette image du sacrifice, elle offre pour Kierkegaard lui-même, et pas simplement pour son pseudonyme, elle offre la structure schématique fondamentale de l'existence, de son dynamisme, du passage d'une forme d'existence à une autre.
Merci, votre explication, Vincent Delcroix, est extrêmement claire. Et finalement, elle pose le problème de cette mobilisation de soi, dresser la volonté à vouloir pleinement commettre un sacrifice humain, commettre d'autres choses. Le concept de résolution, vous l'avez un peu évoqué l'un et l'autre, et maintenant nous allons en parler, a été jugé par certains, ayant favorisé, d'abord ayant beaucoup eu de succès dans la période qu'on appelle le nihilisme allemand des années 1920, Ernst Jünger, la mobilisation de soi et au nom de l'État, par exemple, le décisionnisme de Carl Schmitt, Heidegger lui-même, et celui-ci étant devenu recteur de l'université de Fribourg en 1933 sous le nazisme, et ayant prononcé un discours tout à fait nazi, l'auto-affirmation de l'université allemande. Karl Levitt, un penseur important du XXe siècle, a alerté en 1946 les existentialistes français séduits par Heidegger en leur disant que ce concept de résolution était très problématique et avait à voir avec l'engagement nazi de Heidegger. Écoutez un extrait de l'article de Karl Levitt dans Les Temps modernes en 1946. Ça s'intitule « Les implications politiques de la philosophie de l'existence chez Heidegger ».
Ce sont partout des expressions de violence et de résolution qui déterminent à la fois le vocabulaire de la politique nationale socialiste et de la philosophie heideggerienne. Au style dictatorial de la politique correspond le caractère apodictique des formules pathétiques chères à Heidegger. De cet arrière-plan historico-politique se détache clairement la signification spécifiquement allemande des notions heideggeriennes du Dasein. Existence et résolution, être et pouvoir être. L'explication de ce pouvoir comme destin et devoir, le raidissement dans le pouvoir être, toujours authentique et particulier, c'est-à-dire allemand. Et ces termes qui reviennent sans cesse, discipline et coercition. Même pour atteindre la clarté du savoir, il faut se forcer. Dur, inexorable et sévère, tendu et aigu, tenir le Dasein en état d'acuité, résister à l'assaut et s'établir sur soi-même, s'engager et s'exposer au péril, révolution, effraction et irruption. Tous ces termes reflètent le mode de pensée catastrophique de la génération allemande du temps d'après la Première Guerre mondiale. Au fond, toutes ces notions et ces termes sont l'expression de la résolution amère et dure d'une volonté qui s'affirme face au néant, fière de mépriser le bonheur et la compassion.
Philippe Cabestan, est-ce que Carl Levitt a raison ainsi de dire que ce concept de résolution qui existait chez Kierkegaard, mort évidemment depuis longtemps, a eu beaucoup de succès dans les années 20 sur un mode trouble et que c'est une des choses qui a pu contribuer non seulement à l'engagement de Heidegger dans le nazisme, mais à la justification théorique de son engagement?
Alors, je crois qu'il faut être reconnaissant à Carl Levitt d'avoir, dès 1946 et à ma connaissance, il est le premier, avoir souligné l'engagement nazi de Heidegger et cette dérive, ce qu'un auteur que j'aime bien appeler le suicide philosophique de Heidegger. Là où j'ai plus de mal à le suivre, en relisant le texte qui vient d'être lu, c'est dans son interprétation du texte même de Heidegger et du vocabulaire de Heidegger. Il me semble qu'il y a un élément important à apporter à cette réflexion, c'est le fait que dans Sein und Zeit, dans Être et Temps, le concept de résolution concerne le Dasein en tant que singularité, en tant que individu. Et le grand glissement catastrophique qu'opère Heidegger, notamment dans son discours du rectorat que vous avez évoqué, c'est de reprendre le concept de résolution, et on le trouve dans le texte de ce discours, c'est de reprendre ce concept de résolution et de lui donner une signification politique qui est tout autre que sa signification dans Être et Temps. Il lui donne une signification politique parce que, tout d'un coup, la résolution devient la résolution collective. La
du
résolution
peuple allemand,
voilà, exactement.
Le Dasein allemand, voilà. Avec son destin, voilà. Historique.
Et là, c'est quelque chose de très très étonnant. Il y a véritablement là quelque chose qui même est très difficile à comprendre humainement. Comment quelqu'un qui a pensé toujours le Dasein, en 1927 en tout cas, comme, je dirais, un existant individuel, et toute la réflexion sur la résolution concerne le Dasein en tant qu'existant, et tout d'un coup, il fait du Dasein le Dasein d'un peuple, de telle sorte que c'est une entité collective, et la résolution devient une résolution collective. Alors évidemment, ça lui permet de retrouver les accents du nazisme, du national-socialisme, et il faut le reconnaître. Là, il y a une sorte de glissement catastrophique de la pensée de Heidegger dans une idéologie, je ne parlerai plus de philosophie là, mais dans une idéologie nazie.
Vincent Delcroix, que pensez-vous de tout cela, de ce
problème?
Oui,
je pense que, bon, du reste, Levitt était bien placé pour en parler, vu qu'il était un élève de Heidegger, mais je pense qu'il y a quelqu'un, moi, qui m'est très cher, et qui avait remarqué dès 1933, à dire vrai, la difficulté, le problème, l'ambivalence de cette théorie de la décision, et qui liait intimement Kierkegaard et Heidegger, c'est Adorno. C'est la lecture que fait Adorno de Kierkegaard d'une part, et à travers Kierkegaard, la critique extrêmement véhémente, mais à mon avis complètement justifiée, qu'il faisait du premier Heidegger. Et Adorno voyait très bien que dans ce qu'il appelle cette théorie du choix pour le choix chez Kierkegaard, c'est-à-dire de cette valorisation du choix en lui-même, quel que soit, à dire vrai, ces objets, ce qui est important, c'est de choisir. Autrement dit, finalement, on peut choisir n'importe quoi du moment qu'on le choisit volontairement, avec engagement, avec passion, avec et on sait à quoi ça peut aboutir. Mais lui, il était particulièrement attentif au fait que, certes, ces catégories qui portent sur l'existence individuelle, même en tant que telle, c'est-à-dire même pas traduit sur le plan de l'existence collective, mais même en tant que telle, avait déjà en soi-même quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est-à-dire que je citais tout à l'heure Carl Schmitt, et Carl Schmitt est un bon exemple de ça, c'est-à-dire que c'est pas à la vie collective que Carl Schmitt applique la notion de décision dans son décisionnisme, c'est bien au sujet souverain. hein, et dans les deux sens du terme, à la fois politique et psychologique. Un sujet souverain, un sujet qui décide pour lui-même, avec encore une fois ce caractère viril du volontarisme, et ben c'est ça qui constitue la matrice, je ne vais pas dire du Führerprinzip, mais la matrice de cette décision souveraine qui ouvre les portes à la dictature. Et Adorno le voit très bien, ça, et il le voit dès sa thèse sur Kierkegaard, qui est publié en 1933, quasiment le jour même de l'avènement d'Hitler. C'est lui qui met en garde, et d'une manière extrêmement critique, hein, c'est lui qui met en garde contre, et qui écrira le jargon de l'authenticité, qui met en garde contre cette hypervalorisation de la décision.
Jargon de l'authenticité très analytique et ferme dans la condamnation de Heidegger, ouais. Date de 1951. On retrouvera la même chose dans la première partie de Dialectique négative, qui date de 1964. Voulez-vous le dernier mot, Philippe Cabestan, mais dans ce cas assez bref, mais c'est vertigineux, ce sujet.
Vertigineux.
Je le sais bien, donc je vous laisse conclure.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire de le croire. J'ajouterais simplement ceci, c'est que quand même je garderai à l'esprit la distinction, alors peut-être que je suis trop attaché à être étant et à l'importance de cet ouvrage pour toute la philosophie du XXe et du XXIe siècle, mais je garderai quand même la distinction entre deux usages du concept de résolution. La résolution dont on peut effectivement dénoncer le virilisme, ça je trouve ça intéressant aussi, hein, le caractère héroïque, viriliste, mais je garderai la distinction entre donc la décision au point de vue individuel et ce glissement catastrophique qui conduit à envisager la résolution à un plan collectif, de telle sorte que ça devient la résolution du peuple allemand.
C'est John Coltrane que vous entendez là, A Love Supreme, 1964. Il s'agit de la partie numéro 2, intitulée Resolution. Merci beaucoup Vincent Delcroix et Philippe Cabestan. Les références de vos travaux sont sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse au nom, au fait de nommer. Voici le pourquoi du comment. «
Comment les noms parlent-ils du monde ? La distinction entre les noms communs et les noms propres n'est pas une distinction parmi d'autres dans le langage humain. C'est une distinction fondamentale. On aura beau faire, le nom propre d'une personne n'est jamais seulement un désignateur linguistique parmi d'autres. Dire Antoine Dupont, ce n'est pas juste désigner un homme avec un nom très général et des prénoms qui fonctionnent par distinction les uns des autres. C'est le désigner lui et personne d'autre, même s'il a des homonymes, et peut-être y a-t-il en effet, avec cet exemple, beaucoup d'homonymies, beaucoup de personnes qui portent le même nom, mais il va falloir qu'ils se distinguent les uns les autres, et bien sûr, ils le font de toute façon, et il faut les respecter chacun et chacune à leur place et à leur nom. Le nom propre est donc d'abord un nom d'être humain, et il faut l'assumer comme tel, et Jean-Claude Pariente le montrait avec force dans le langage et l'individuel. Pourtant, le nom parle aussi, le nom parle du monde, les noms propres charrient avec eux toute une histoire. Bien entendu, ils s'insèrent dans une culture, dans une société. Ils travaillent, ils traversent aussi, ils transitent dans le monde. Et l'un des signes de la mondialisation, de la migration, du mélange, c'est le partage des noms avec ce qu'il a de merveilleux et ce qu'il a parfois de violent et de destructeur. Mais il n'y a pas seulement cette manière-là pour les noms des humains de parler du monde. En fait, les humains humanisent le monde en nommant les objets avec quelque chose qui tient du nom propre, qui n'est pas seulement quelque chose d'un peu plus précis qu'un nom commun. Ainsi, ce cours d'eau, je peux l'appeler un fleuve, c'est déjà un nom, je dis c'est un fleuve. Et à travers ce nom, déjà, je mets un peu de permanence dans ce qui, comme Héraclite le disait, ne cesse de couler, je ne me baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Mais je sais que c'est un fleuve. Alors qu'en est-il si je l'appelle la Seine, si cela devient son nom propre, si le monde s'individualise aussi à travers l'extension du nom propre au monde et aux objets. La géographie fonctionne aussi par l'individualisation des sites, des lieux du monde, par des noms qui fonctionnent un petit peu comme des noms propres. Et d'ailleurs, dans le langage et l'individuel, Jean-Claude Pariente parle des noms propres épistémiques ou épistémologiques dans un autre chapitre du livre sur la connaissance. Nous ne pouvons pas ne pas individualiser. Nous disons ainsi la Joconde, par exemple, j'en ai déjà parlé, la Joconde, c'est ce tableau, le Pont Neuf, c'est ce pont et nul autre, vous pouvez toujours le reproduire, mais c'est son nom. La Tour Eiffel aussi porte un nom, non seulement parce qu'elle porte le nom de Gustave Eiffel, mais parce qu'elle s'est individualisée dans l'histoire humaine, et pourtant ça n'est pas une personne. Le nom est donc de l'attachement, de la reconnaissance de l'histoire dans le monde, et s'étend des personnes humaines à l'ensemble des choses. Mais il y a aussi cet envers du nom, ce qui n'a pas de nom, ce qui est peut-être au-dessus du nom, comme le nom de Dieu dans certaines théologies, mais ce qui est peut-être en deçà du nommable, ce qui est innommable, et innommable non seulement par des noms communs, mais encore plus peut-être par des noms propres, même si par exemple Auschwitz ou Hiroshima sont devenus des noms propres de l'innommable. Il y a ce qu'Emmanuel Lévinas appelait dans ce recueil admirable intitulé « Noms propres » et dans le dernier chapitre de cet admirable recueil, ce texte intitulé « Sans nom », c'est-à-dire ce qui n'a pas de nom, et il parlait de l'horreur innommable, de la terreur brute qui a frappé certaines et certains pendant la Seconde Guerre mondiale et qui peut revenir à tout moment de l'histoire. Ainsi, le monde est-il ordonné par les noms humains avec en deçà d'eux l'innommable de l'horreur et au-dessus peut-être l'innommable de l'amour ou de la vénération, ce qui est au-dessus de tous les noms et qui permet malgré tout de penser que ce sont les noms humains qui donnent sens à la vie des choses.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Anthony Thomasson. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Philippine de Bellois, Chaïma Giboire, Anna Fulpin et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.